consum.umontréal.ca.
Écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Allô tout le monde, il est midi, l'heure pour moi de vous accompagner et d'inaugurer notre toute première émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Enchantée, moi c'est Maï Naga, votre animatrice. Écoutez, je suis finissante au bac en communication et journalisme de l'UDEM. Pour vous en dire un peu plus, j'adore voyager, apprendre plein de langues, tester tous les cafés de Montréal, mais surtout j'adore parler. Et c'est pour ça que je suis vraiment très contente qu'on partage la prochaine heure ensemble. D'ailleurs, en ce 10 septembre, je vous souhaite la bienvenue à Bulle d'écoute, l'actualité en toute intimité, votre nouvelle émission qui vous accompagne chaque mardi de midi à 13h pour votre pause café conversationnelle. Ici, on se réunit pour échanger, explorer, débattre, revisiter des sujets d'actualité et des thématiques qui résonnent en nous, mais aussi qui vous touchent. Bulle d'écoute, c'est aussi la voix des étudiants au certificat en journalisme de l'UDEM. Alors, chaque mardi, on s'empare du micro de CISM, la radio du campus de la Montagne, pour vous faire découvrir nos petites trouvailles, nos coups de cœur, puis tout ce qui nous passe par la tête, en fait, et qu'on a envie de vous partager. Tout ça dans une ambiance très relaxe, conviviale, comme si vous étiez au café avec vos amis, en fait. Alors, embarquez avec nous et entrez dans notre bulle. C'est parti! Sur ce, je dis « on » depuis le début parce que oui, je suis pas toute seule. Je suis bien accompagnée de mes super collègues avec nos journalistes chroniqueurs. On a Lauriane, allô?
Hello!
On a aussi Tristan Dagorn.
Salut, salut!
Mélissa.
Salut!
Et on a Anne-Lie, chroniqueuse, mais qui est aussi parfois à la technique, qui va venir m'aider un petit peu.
Coucou!
Mais c'est ça, c'est quoi votre parcours un peu, la gang? Vous voulez nous parler un petit peu de vous?
Bon, je vais commencer. Moi, je suis étudiant et finissant du coup en journalisme. J'ai un bac en com aussi que j'ai fait en France, puisqu'il m'intéresse plutôt le sport, la politique, les enjeux sociétaux. Donc, ça va plutôt être ça qu'on va parler dans mes chroniques pour toute la saison.
Moi, c'est Lauriane. J'ai fini mon certificat en journalisme. Avant, j'ai touché un peu à tout ce qui est sociaux, philosophie aussi, beaucoup. Mais c'est un peu éclectique comme parcours, mais j'aime ça. Puis ça va me permettre de vous parler de plein de sujets différents. Je vais surtout m'axer sur l'environnement, cette émission, mais j'espère toucher un peu à tout puis partager avec vous plein d'actualités.
Nice.
Moi, c'est Mélissa. Donc, je finis aussi mon certificat en journalisme. Puis, j'ai eu un parcours plus en art. Dans le fond, j'ai fait des études cinématographiques à l'UDM. Puis, je finis aussi mon certificat en marketing. Mais dans le fond, moi, tout ce qui est culture, art et sociaux aussi, ça m'intéresse. Donc, ça va être pas mal là-dessus que je vais vous parler durant cette émission.
Oui, ben moi, Anne-Lie, dans le fond, moi, j'ai fait du cinéma comme Mélissa. J'ai fait 2 ans en majeur cinématographique et je termine mon certificat en journalisme. J'ai préalablement fait du cinéma aussi au Cégep, donc j'ai un bon petit parcours. Puis en ce moment, je travaille à Radio-Canada en tant que commis aux nouvelles. Donc tout ça va m'ouvrir des belles portes, puis je suis contente de faire ça avec vous cette année.
Mais oui, ben on a vraiment des parcours très différents, puis on a vraiment une belle gang que vous allez apprendre à connaître dans les prochaines émissions au cours des semaines. Écoutez, maintenant que vous connaissez l'équipe, à quoi s'attendre aujourd'hui? Annie, tu vas nous parler de la nouvelle loi que la Chine elle a mis en place pour son programme d'adoption internationale. Tristan, tu vas nous parler des élections américaines, c'est ça?
Exact.
Avec un peu les conséquences sur le Québec, le Canada, tout ça. Restez avec nous pour en savoir plus. Mélissa, on va faire un petit retour en été. On va parler des festivals.
Oui.
Puis, Lauriane, tu vas nous parler aussi des conséquences de l'inflation sur les supermarchés. On va vous proposer quelques solutions pour faire vos courses de manière un petit peu moins chère pour des budgets qui sont... Des budgets étudiants, mais des pour que ça aille pour tout le monde à peu près. Mais c'est ça, on commence une belle aventure tous ensemble. Un grand merci à vous d'être plugués avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, si vous souhaitez interagir avec nous puis nous partager vos pensées, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel au cism@lereporterplus.com. Écoutez, la gang, moi je scrollais ce matin, là, j'étais sur TikTok, puis je regardais les nouvelles, puis j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour Instagram qui a été mise en place, mais il n'y a pas tout le monde qui l'a encore, mais maintenant, en tout cas moi je l'ai, puis ce matin je voyais les stories, maintenant tu peux faire des commentaires qui sont en live, fait que je regardais les stories de Rosalia ce matin, là, la chanteuse, puis je voyais tout le monde qui commentait, puis j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez déjà eu la nouvelle mise à jour ou pas, vous?
Moi, non, mais il y a plein de monde qui m'ont parlé de ça. Puis j'ai entendu l'autre fois, justement, sur TikTok, que c'est comme plus à la mode de mettre une publication. C'est rendu un peu boomer, là, ouais, qu'on appelle. c'est un peu ma génération que là, si tu postes, c'est pas tant populaire. Fait que là, les commentaires maintenant qui ont été ajoutés, c'est une drôle de nouvelle mise à jour, mais...
Ils disent que c'est gênant. Vous trouvez ça gênant, vous, de poster?
Moi, perso, non, mais j'ai pas vu cette nouvelle mise à jour encore. Là. Je sais pas si vous l'avez testée.
Ça dépend ce que tu postes, je pense, après.
Ouais. Mais c'est pareil pour les posts. Maintenant, ce sera plus carré. C'est encore une nouvelle mise à jour. Je sais pas si ça vient tout en même temps. Je sais pas si les auditeurs l'ont déjà, eux, encore. Mais genre, ce sera plus des comment ça s'appelle, des publications en carré. Ce sera des choses comme allongées. Ah. Moi, je suis rétractaire au changement. J'ai pas envie que ça change. Je suis habituée à mes petites photos. Là. Ça va tout me déformer.
Mais j'ai l'impression que toutes les plateformes essaient de se ressembler parce que c'est un peu une compétition. Là. Fait que j'ai l'impression qu'elles essaient de toutes... merger, comme on dit, ensemble. Là. Donc,
Vous, est-ce que vous postez encore?
Moi, des fois.
Ouais, ça arrive.
Honnêtement, je suis pas trop active, mais j'aimais bien le concept de pouvoir commenter les stories des gens. C'est plus personnel, ça se faisait vite aussi. Maintenant, je pense que je vais aller directement au message parce que commenter, c'est très public.
Des fois, tu écris « Hey, wow », mais t'as pas envie que tout le monde ait accès à ce « wow » là, peut-être.
Mais genre, tu peux faire des commentaires comme « piqué » ou tu sais, comme tout le monde peut voir « Oh non, moi je peux pas. » Ça me gêne trop.
Mais je pense qu'on va s'habituer comme avec tout aussi. Là. C'est bientôt, ça va devenir... Ouais. Naturel pour tout le monde.
Exact.
Est-ce que vous pensez qu'ils vont inventer d'autres nouveaux réseaux sociaux, tu sais, qui vont comme peut-être remplacer Instagram un jour ou qu'il va y avoir de quoi qui sera nouveau ou est-ce que c'est vraiment comme indémodable?
Moi, je crois que ça va être difficile de remplacer Instagram.
Peut-être que TikTok.
Mais l'affaire, c'est que moi, après, avant que TikTok sorte, dans ma tête, il n'y avait plus de réseau social possible. Puis finalement, ils ont sorti TikTok, un des réseaux sociaux les plus populaires. Fait que je sais pas, moi, qu'est-ce qui peut arriver. On sait jamais, hein.
Ouais. Il y aurait des médias qui pourraient émerger, surtout avec le blocage en ce moment de Meta, etc., par rapport aux médias et tout. Ce serait bien que, même que ça soit un média canadien, là, comme ça, ce serait plus accessible sans qu'on soit vraiment rattaché aux États-Unis ou à la Chine. On va en parler un peu plus tard, mais...
Parlant de Chine et de nouveautés, j'ai un sujet à vous présenter, justement. J'ai choisi de parler d'un sujet qui m'interpelle beaucoup, mais qui touche surtout des centaines de familles qui étaient dans un processus d'adoption en Chine. Je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle, mais le 28 août dernier, le gouvernement chinois a mis fin à son programme d'adoption internationale qui est suspendu depuis la COVID-19. On sait pourquoi. En annulant tous ces contrats en cours. Donc, toutes les familles qui avaient un projet en cours qui était quasiment sur le point de signer et d'avoir son permis de voyage, ça a été annulé. Ce changement brusque a dévasté, évidemment, de nombreuses familles en attente. C'est seulement le 5 septembre que le gouvernement canadien a annoncé la nouvelle. Puis là, ça a perturbé. Écoute, il y a des familles qui ont pris ça sur les réseaux sociaux. Ça, évidemment, je stipule un article de Radio-Canada qui dit « De nombreuses familles étaient rendues aux dernières étapes de processus d'adoption, certaines depuis plus de 4 ans, donc avant la COVID. Ces familles devront maintenant se tourner vers des solutions de remplacement ou simplement abandonner le projet. Évidemment, il y a quelques exceptions pour les familles qui ont déjà eu une autorisation de voyage ou pour des familles qui avaient un lien de parentalité avec un enfant chinois. » Là, des petites statistiques. Depuis 1992, il y a eu plus de 160 enfants chinois qui ont été adoptés à l'étranger, dont moi, on en parlera plus tard. Ce qui pousse les gens à se demander pourquoi la Chine arrête son programme. Cette nouvelle réglementation s'explique par la forte baisse démographique que vit la Chine depuis 2023, donc avec un taux de natalité parmi les plus bas au monde, soit 6,39 naissances pour 1000 personnes. Ce qui est un changement radical pour la Chine, qui a, la population a chuté de 0,8 million pour une population de 1,41 milliard. C'est une baisse historique de 0,15% que la Chine n'a jamais connue. Cette baisse s'explique par le coût élevé de l'éducation, le rejet graduel du mariage, puis l'augmentation du nombre de femmes faisant des études supérieures qu'il n'y avait pas avant. Michelle Leblanc est une mère qui fait partie du groupe qui attendait d'adopter un enfant depuis plusieurs années. Elle a reçu la nouvelle, comme on dit, comme un coup de pelle, selon laquelle le processus prenait fin. Elle évoque que c'est la façon dont ça a été annoncé. C'est sans considération, c'est inhumain et ça se peut pas que ce soit arrivé comme ça. Elle avait déjà eu l'approbation pour une adoption. Pratiquement toutes les étapes étaient complétées, à part la signature finale, puis le permis de voyage, comme je disais tout à l'heure. Puis, c'est ça, c'est par... excusez.
Parce qu'ils n'ont pas eu de préavis, hein, c'est ça. Ça arrivait vraiment comme soudainement.
Non, c'est ça. Puis en plus, cette madame, elle a comme elle a l'impression que le gouvernement canadien est un peu au courant, puis que ça a été annoncé plus tard, parce qu'il y a comme quelques problèmes entre le Canada puis la Chine dernièrement. Puis, je cite pour finir Anne-Marie Morel, vice-présidente de l'Association des parents adoptants du Québec, que c'était peut-être le dernier espoir de fonder une famille pour certaines familles, qui là devraient arrêter ce projet familial. Puis ça, c'est un sujet qui me touche personnellement quand même, parce que moi, j'ai été adoptée, puis je me considère très, très, très chanceuse. Puis c'est ma mère qui m'envoie ça le 5 septembre dernier. Je suis arrivée au bon moment, comme on dit, hein? Puis selon mes analyses, puis plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, c'est pas le fait nécessairement que que le projet a été annulé, c'est plus le fait que les familles étaient en processus de...
Donc, puis ils l'ont vraiment appris à travers les médias?
Oui. Ils ont comme pas reçu de lettre gouvernementale ou d'avis par courriel. C'est vraiment... Ils l'ont appris comme toi et moi, là, aux nouvelles, dans un article. Il y en a qui l'ont appris par les réseaux sociaux parce que le monde, ils mettaient leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils ont c'est fou, là. Parce que moi, je me mets à la place de ma mère il y a 26 ans. Puis c'est fou, là. Elle aurait jamais pu... Il y a plein de familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est sûr que là, ça ouvre la porte à adopter en Europe, en Haïti, ici, juste au Québec aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'une famille. Fait que c'est sûr que...
Fait que les processus, c'est totalement annulé.
Oui, totalement annulé. Les raisons n'ont pas été... c'est toutes des stipulations. Il n'y a aucune raison particulière qui a été mentionnée par le...
Oui, puis d'ailleurs, moi, j'ai travaillé dans la DPJ... il y a quelques années. Puis, je sais que c'est vraiment difficile au Québec aussi d'adopter un enfant québécois. Comme, tu sais, souvent, c'est vraiment problématique. Il y a vraiment beaucoup de trucs dans la DPJ qui fait que c'est presque impossible quand l'enfant, il y a encore un parent, même si le parent est inapte, de prendre soin de lui ici. Fait que c'est quand même assez plate comme nouvelle, tu sais. On s'entend, ça peut avoir des répercussions aussi, même ici au Québec, beaucoup.
Mais je dirais que c'est un programme qui aidait beaucoup de familles, puis qui donnait le bonheur à ces familles-là. Puis les enfants, il y en avait besoin aussi. C'est juste que là, c'est plate qu'on n'a aucune... J'imagine que dans un temps futur, on va avoir plus d'explications.
Je pense qu'il y a aussi un questionnement par rapport économique. Enfin, la Chine, je pense que c'est pas mal de questionnements économiques. Puis en fonction de mes recherches, etc., j'ai vu qu'ils se sont fait doubler récemment par l'Inde au niveau démographique et qu'il y a clairement une baisse démographique en Chine. Bon, pourquoi, du comment, je ne sais pas. Là, mais je place ça comme ça. Je pense qu'il y a sûrement des idées économiques aussi derrière.
J'ai lu que, tu sais, depuis... qui avait réduit le nombre d'un enfant par famille, mais c'est comme si la société avait tout été rebâtie autour du fait que pour convenir à des familles avec un enfant. Puis aujourd'hui, le coût de la vie coûte tellement cher. Bien, c'est un article que j'avais lu, en fait, que les familles chinoises ont plus vraiment d'intérêt à avoir plus qu'un enfant parce que ça coûte trop cher. Puis tout est fait en fonction de subvenir aux besoins de familles de trois. Donc, c'est juste plus simple aussi.
Oui, là, j'ai lu qu'ils refavorisaient les familles de trois, mais ils sont tellement habitués depuis quasiment 30 ans. Dans le fond, cette loi-là, ça a été présente pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ils favorisaient la femme qui travaille pas. C'est juste des filles aussi qui étaient adoptées majoritairement parce que l'homme, c'était lui qui allait aider la famille éventuellement. Fait que là, j'imagine que... Moi, c'est une stipulation, mais il reste plus de filles là, pour faire des bébés.
Mais c'est quand même drastique comme changement parce que c'est quelque chose qui est quand même assez mondial. Tu sais, il y a plusieurs pays qui reconnaissent justement une forte baisse de natalité. Par exemple, en France, justement, il y a l'INSEE, en fait, l'institut qui a sorti des chiffres. Le nombre de naissances, il a reculé de 6,6% en France en 2023. C'est énorme. Par rapport à ça, il y a justement le président Emmanuel Macron qui a mis en place pas une nouvelle loi, mais comme des propositions de réarmement démographique pour justement accroître le taux de natalité, fait que soutien à la natalité, amélioration des conditions de travail, des congés de naissance, par exemple de paternité plus longs et tout ça. Mais c'est fou parce qu'il y a aussi un journaliste, je ne sais pas si vous le connaissez là, Hugo Décrypte.
Oui.
Il est quand même vraiment connu. Puis justement, j'ai vu, il a fait un reportage, il est parti en Corée du Sud. Et c'est justement à cause, en tout cas, par rapport à ce qui s'était passé avec Emmanuel Macron, il est parti là-bas pour voir pourquoi il y a une baisse de natalité qui est aussi énorme. Fait qu'il voulait voir dans ce pays-là pourquoi, c'était quoi en fait les critères de pourquoi les gens font plus d'enfants et s'ils avaient mis des choses en place pour pouvoir augmenter la natalité et s'il y avait justement des choses à tirer de ce pays. Puis c'est comme des solutions à amener en France parce que ce qu'il a mis, ben, en tout cas ce qu'il veut mettre en place le président, c'était quand même assez en tout cas ça n'a pas été très, très bien accueilli, mais ce que je peux comprendre, mais justement, et du coup ce qui est ressorti du documentaire, c'est qu'en Corée du Sud, elles expliquaient, c'est vraiment quelque chose par rapport à notre génération, tu sais, c'est comme t'expliquais, on est plus indépendant, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour faire sa vie, on est beaucoup plus focus sur nos objectifs personnels, nos objectifs de vie, puis tu sais, on est comme on veut avoir une carrière qui nous plaît, on veut s'épanouir dans notre carrière, puis tu sais, comme vu qu'on devient de plus en plus indépendant, puis qu'on grandit, tu sais, par exemple, je me regarde, je vais bientôt avoir 22 ans, ma mère m'a eu à 25, je suis comme, ça veut dire, là, je suis censée avoir un enfant dans pas long, je suis pas prête du tout. Et tu sais, c'est beaucoup de critères comme ça qui font que bah, c'est quelque chose qui est quand même assez mondial. C'est...
Mais en effet, là, la France et la Chine, c'est pas les seuls pays qui ont une baisse énorme de natalité. Puis comme tu dis, c'est parce que la femme en soi, elle est beaucoup plus indépendante. Puis c'est ça qui fait qu'on travaille, on veut avoir une carrière. Je pense que le mot carrière, il est de plus en plus favorisé. Je pense qu'il y a moins de personnes qui favorisent la famille. Là, on n'embarquera pas là-dedans, mais je pense qu'on favorise beaucoup plus la carrière. Puis après, les enfants, on les a plus tard aussi. Puis là, c'est sûr qu'il y a des bonnes natalités parce que les baby boomers, ben ça, il y a eu beaucoup d'enfants d'un coup. Fait que je pense que c'est sûr que la natalité, c'est pas comparable tant que ça avec, mettons, les baby boomers. Mais
je pense que c'est aussi un peu une traîne. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu vois tout le temps comme concentre-toi sur toi-même, réussis tes objectifs, soit, tu sais, la traîne that girl, là.
C'est très à la mode.
Ouais, voilà, c'est ça. Fait que est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est comme quelque
chose
qui vous
vraiment... c'est quelque chose qui vous influence peut-être?
Bah la traîne, je dirais non. Mais moi c'est plus moi j'ai peur d'être enceinte. C'est pour ça que pour l'instant avoir des enfants ça me représente moins. Puis mais c'est ça. Genre tu sais je suis très focus sur ma carrière mais pas forcément par rapport aux tendances qui se passent sur les réseaux sociaux.
Puis comme t'as peur d'être enceinte, est-ce que l'adoption ça serait comme une option?
Oui. Ouais. J'ai toujours dit à ma mère j'aimerais fou l'adopter. Tu sais, je m'en fiche si ce soit une fille, un garçon, là. Mais ouais, ça a toujours été quelque chose dans les plans. Puis du coup, le fait d'entendre ça, je suis comme genre, oh!
Mais c'est intéressant. Puis en plus, on en a besoin aussi un peu partout, là. Mais même au Québec, on en a besoin des adoptions, là. Puis.
Mais c'est ça, je lisais un article que le Québec a beaucoup de difficultés. Ben, la DPJ, être au courant. Que, il y a en 2018, c'était comme il y avait 5 enfants qui étaient en demande d'adoption. Puis là, maintenant, on est rendu à 17. Puis c'est des enfants de 3 à 5 ans que souvent, ça prend des années avant qu'ils soient adoptés ou qu'ils sont jamais adoptés puis qu'ils sont juste rejetés après dans les... rejetés, pas un très bon terme. Mais remis dans les services sociaux et tout. Donc, ça peut peut-être être un avantage pour les Québec dans le sens où c'est malheureux pour les familles qui avaient déjà ça en cours. Mais ultimement, pour le Québec, peut-être
ça favorise l'adoption québécoise.
Exact.
Ouais.
Mais est-ce que ce serait pas aussi, tu sais, comme... Bon, après, la Chine, c'est pas le même régime aussi, fait que, tu sais, c'est quand même assez différent, mais est-ce que le fait d'interdire l'adoption, genre, tu sais, si, mettons, il y a d'autres pays qui prennent exemple là-dessus, ça irait pas à l'encontre de tes libertés à toi aussi? Parce que, tu sais, comme, qui sont les personnes pour te dire t'as pas le droit d'adopter? Tu sais, si t'as pas envie d'être enceinte pour... tel ou tel choix, c'est comme à quel point ça viendrait enfreindre tes libertés personnelles à toi.
Parce que je pense que ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est pas le même régime. Puis je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, enfin en tout cas, même quand Macron tu parlais de réarmement démographique, c'est fort quand même comme mot, réarmement démographique. Je pense que les politiques pensent beaucoup aussi à l'économie en règle générale et que ouais, c'est ça. La Chine, c'est un pays...
un régime très communiste aussi, là.
C'est ça. Donc,
Puis...
Ouais, donc du coup, bah, c'est ça. On connaît les relations internationales compliquées entre la Chine et les États-Unis, ou même entre l'Occident et les États-Unis en règle générale. Au début, les États-Unis avaient sanctionné, il n'y a pas si longtemps que ça, là, en début d'année, 300 entités chinoises russes qui étaient accusées d'avoir financé la guerre en Ukraine. Puis on va parler, ce qui va nous amener à parler des prochaines élections américaines qui vont avoir un réel impact sur les relations internationales, mais ça on en parle un petit peu plus tard.
Ouais, tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Écoutez, on revient après une courte pause, on vous dit à tout de suite.
De la main, une trêve, un drapeau blanc. bien les choses. C'est drôle de te voir ici, hein. Le temps fait bien les choses. Le temps fait bien les choses. Ton sourire n'a pas changé. Un jardin bien entretenu. Ce bonheur autrefois mien était confié à un nouveau venu. C'est drôle de te voir ici, ah. C'était une autre vie, ah. Le temps fait bien les choses. C'est drôle de te voir ici.
Retour sur les ondes du CISM, il est midi 22, vous écoutez Bulle d'écoute au 89.3. Juste avant, Tristan, tu nous parlais des élections américaines.
Oui, alors d'ailleurs, super content d'animer ma première chronique au sein de CISM, et plus particulièrement de notre émission Bulle d'écoute. Aujourd'hui, c'est ça, c'est un jour très spécial pour l'avenir des États-Unis, mais pas que. On le sait bien, oui, on vous rabâche beaucoup là sur les élections américaines de novembre prochain, mais ce n'est pas pour rien. Et je compte bien en rajouter une petite couche. Ce n'est pas pour rien non, car cette élection est importante non seulement pour les États-Unis, mais également pour le monde entier, et le Québec n'y échappera pas. Et ce soir se déroulera le premier débat télévisé entre les deux candidats démocrates et républicains. Kamala Harris et Donald Trump. Un premier débat sous signe de tension, tant il est d'une importance cruciale pour le scrutin à venir, car oui, ce débat se déroulera en Pennsylvanie, ce même état où la démocratie américaine a vu le jour en 1776. Ayant basculé côté républicain en 2016, puis revenu dans les rangs démocrates en 2020 lors de l'élection de Joe Biden, cet état fait partie des états dits pivots qui pourraient faire pencher la balance dans l'un des deux camps. Mais alors, quelles seraient les répercussions pour le Québec et le Canada? Elles seraient assez sévères, par exemple, si le camp républicain l'emporte, car oui, Donald Trump ne compte pas faire dans la dentelle s'il revient au pouvoir. Concernant les relations commerciales entre les deux pays, ça pourrait devenir un peu plus compliqué, avec un souhait de sanctions commerciales pouvant atteindre 10% sur les marchandises étrangères. Voulant maximiser le « made in the USA », le commerce canadien sera probablement touché, quand on sait que 77% des exportations canadiennes sont parties vers les USA en 2023. Côté sécurité et défense, on surfe à peu près sur la même vague. Le camp trumpiste aimerait que le gouvernement canadien mette un peu plus d'argent sur la table pour la défense, sans quoi il perdrait potentiellement le soutien des Américains. C'est ce qu'avait clamé le sénateur républicain dernièrement, Kevin Cramer, sur Radio-Canada en juillet dernier. Je cite « Le Canada profite du fait qu'il est voisin de la plus grande puissance mondiale ». Mais les États-Unis n'ont pas les moyens d'être l'armée de tout le monde. La professeure à l'université Queen's, Stéphanie Von Latke, estime au micro de Radio-Canada que si Donald Trump est élu, on peut vraiment s'attendre à une pression exacerbée et même à l'exclusion du Canada de discussions clés en matière de sécurité et de défense. L'ex-président américain a déjà laissé entendre qu'il pourrait refuser de défendre des pays membres de l'OTAN qui ne paient pas leur dû en cas d'attaque russe. Le Canada mettrait aujourd'hui à peu près 1,37% de son PIB dans la défense, contrairement aux 2% attendus par le traité de l'Atlantique Nord. Justin Trudeau, lui, de son côté, se défend par le fait que le Canada serait le cinquième pays de l'OTAN sur 32 au total à avoir le plus augmenté ses défenses militaires au cours des dernières années. Kamala Harris, elle, n'a pas hésité à attaquer son adversaire sur ce point, en pointant du doigt la politique du laisser-faire de la part des républicains qui mènerait à ce que les agresseurs de l'OTAN puissent faire ce que bon leur semble.
Trump, on the other hand, threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies. Said Russia could, quote, do whatever the hell they want.
En gros, il ferait clairement la politique du laisser-faire, comme je le disais, et puis ça laisserait clairement la place à la Russie d'attaquer les membres de l'OTAN sans répercussion derrière. Alors oui, on parlait de la Chine tout à l'heure, potentiellement ça pourrait améliorer les relations entre Chinois et Américains, mais derrière, la stabilité de l'OTAN perdrait un peu plus sa place. Donc ce premier débat révèle une importance cruciale du coup à moins de 2 mois du scrutin, surtout pour les démocrates, après l'échec désastreux de Joe Biden le 27 juin dernier. Après une prestation vraiment compliquée, Biden s'était retiré de la campagne en juillet dernier, très critiqué pour sa capacité à enchaîner 2 mandats. Les finances des partis étaient dans le rouge et les démocrates perdaient du terrain sur leur adversaire. Depuis, la vice-présidente a réussi progressivement à relancer la machine en réussissant à réunir autour d'elle une grande majorité des électeurs qui n'étaient plus conquis par Joe Biden. Les partisans démocrates attendent donc beaucoup plus de ce débat, tout comme les républicains qui, malgré les affaires en justice de Donald Trump, restent très populaires auprès de la population américaine. Ancienne procureure justement des États-Unis, la candidate démocrate n'hésite pas à appuyer sur ce point pour décrédibiliser son adversaire. À noter que Donald Trump fait l'objet actuellement là, de plusieurs chefs d'accusation, vous avez dû le voir devant la justice américaine, mais qu'on ne connaîtra le verdict du tribunal uniquement après les élections présidentielles. Selon un récent sondage pour finir publié hier par ABC News, Kamala Harris récolterait 50% des intentions de vote contre 46% pour son adversaire républicain. Et donc rendez-vous ce soir à 21h sur ABC News qui diffuse le débat, ou encore sur ICRDI, l'appli Info ou la chaîne YouTube de Radio-Canada pour regarder le débat entre les deux prétendants à la 47e présidence des États-Unis d'Amérique. Et bien sûr, moi je récapitulerai ça un peu plus la semaine prochaine.
C'est fou quand même de voir à quel point les sondages ils changent de jour en jour. Parce que j'avais checké hier justement les nouvelles, puis ça disait que Trump était en tête contre Kamala. Puis là c'est Kamala qui a regagné. Tu sais, vu qu'il avait été, je me souviens plus comment dire en français, mais impeached, tu sais, comme il n'avait pas gagné les dernières élections présidentielles, je pensais qu'il y aurait un réel changement qui se serait fait dans les mentalités américaines. Mais au final, il reprend du pouvoir, mais c'est quand même très égal.
Les États-Unis sont très très divisés. Ça fait plusieurs années déjà qu'ils sont très très divisés, mais même actuellement encore plus. Je pense que Kamala Harris a lancé ça faisait longtemps que Joe Biden, les gens voulaient que. On voyait bien que c'était un peu plus compliqué au niveau de sa forme, etc. Donc c'est sûr que Donald Trump n'hésitait pas à appuyer sur ce fait-là. Maintenant, c'est sûr que. Je me rappelle même plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave.
Est-ce que vous pensez quand même que, en tout cas dans les sondages ou dans la mentalité des gens, le fait que Kamala soit une femme, c'est comme ce serait une première femme présidente, est-ce que vous pensez que ça a un gros impact ou c'est vraiment comme purement politique?
Moi, je pense que c'est soit positif ou négatif, justement. Je pense qu'il y a des mentalités que c'est une femme, fait que je vais voter de l'autre côté.
C'est sûr, ça va jouer.
Ouais, moi, je pense que ça a un gros impact quand même.
Mais j'aurais pu se penser dans la nouvelle génération.
Mais je pense qu'il y a aussi un welcome back de ce qui s'est passé aussi avec Barack Obama qui la soutient. Et puis j'ai écouté là ce matin avant de venir quelques discours, etc. Et puis l'électorat de démocrates lance à chaque fois là yes she can pour rappeler l'élection de 2008. Donc je pense qu'il y a une sorte de renouveau, mais aussi une sorte de je pense que ça a fait du bien aussi à l'électorat démocrate que Joe Biden ait laissé la place à Kamala Harris. Après, on verra. Je sais aussi que là, récemment, Donald Trump, il a beaucoup de problèmes judiciaires, mais il a eu aussi une tentative d'assassinat dernièrement et qui a été quand même médiatisé assez conséquemment. Il y a d'ailleurs une photo qui a été retirée où il lève le poing en disant « fight », etc. Et ça, je sais que ça a aussi influé sur les sondages. Donc, ouais.
Dans le sens où positivement comme un martyr ou négativement que ça a montré qu'il n'était pas...
Ben, je pense que ça a été, il a vraiment, ce matin, j'écoutais vraiment un spécialiste sur Le Monde qui disait qu'il a eu une, je sais pas comment on appellerait ça, mais vraiment un automatisme de lever son poing au lieu d'être évacué directement par les agents de sécurité. Il a directement levé son poing. Enfin, outre le contexte, cette photo-là, elle restera quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe dans les annales de l'histoire des élections américaines. Donc je pense que ça va influer quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est hyper serré. Donc je pense que ce débat de ce soir va vraiment lancer les hostilités et potentiellement influer sur les élections.
Ouais, parce que c'est quand même un message fort qu'il a lancé en mettant son poing en l'air. T'sais, c'est comme, je suis toujours là malgré ce qui va se passer. T'sais, comme, malgré vous essayez de m'abattre, je serai toujours là. Fait que, écoutez, on va suivre ça avec... On se tiendra au courant dans les prochaines semaines. On aura des invités qui vous en parleront un petit peu plus en détail. En tout cas, merci pour le partage. Écoutez, dans quelques instants, on parle de festival avec Mélissa. Je vous dis à tout de suite.
Je marcherai tes bottes pour les détendre. Les détendre.
Il est 12h34, vous écoutez Bulle d'écoute sur les ondes du CISM au 89.3. Allô, je vous rappelle, moi c'est Maïna, je suis votre animatrice pour cette nouvelle émission qu'on lance aujourd'hui. On est avec la gang, on a Mélissa, Lauréane, Tristan et Anne-Lie. Écoutez, moi je vous propose de faire un petit retour en arrière sur cet été, parce que je vous avoue, je suis un petit peu nostalgique, puis avec la chaleur et tout ça de la semaine prochaine, si on parlait un petit peu de cet été.
Ça me fait plaisir d'être avec vous, moi aussi, pour cette première émission et d'aborder un sujet qui est plus culturel. Donc, c'est ça, je pensais faire un petit récap aujourd'hui des festivals qu'on a eu cet été parce que l'été tire à sa fin. Puis, c'est ça, on a eu quand même beaucoup de festivals au Québec. On en a plus de 500 à chaque été. Puis, on a quand même eu des gros noms d'artistes cet été, entre autres avec le Festival international des Montgolfières. On a eu Simple Plan, Avril Lavigne. Aussi au fait qu'on a eu Post Malone, Daddy Yankee, 50 Cent et Motley Crue qui sont venus nous rendre visite. Donc, c'était quand même assez gros. D'ailleurs, est-ce que vous avez été à des festivals cet été ou il y en a d'entre vous qui vont à Saint-Tite en fin de semaine?
J'aurais grave aimé y aller à Oshiaga pour avoir Green Day. Sauf que oui. J'ai pas été, mais j'aurais vraiment aimé y aller.
Ouais. Ouais. D'autres?
Moi, je suis allée à Hillsonic. J'y vais à chaque année. Mais aussi, je vais à des festivals gratuits. Les Franco, il y a des super bons artistes. Ouais. Le festival de jazz aussi. Ça permet de découvrir des artistes émergents qu'on voit pas, on pense pas toujours à aller voir. Mais on dirait que la mentalité que c'est gratuit.
Cet été,
on y va, puis on découvre.
Ouais, cet été, j'ai pas fait de festival parce que de toute façon, je travaillais, j'étais loin, là. J'avais pas de congé. J'avais été à Oshiaga l'année dernière, puis c'est vrai, j'avais découvert full d'artistes hyper pertinents. Même il y en a, je connaissais pas leur nom de groupe, mais quand je les voyais, j'étais comme, oh my god, mais c'est celui qui a joué dans la série de machin, puis je savais pas qu'il faisait de la musique aussi, c'est fou. Mais j'ai trouvé. Parce que ça coûte quand même cher, là, les festivals, on va se le dire. Je pense que même si j'avais été là, je ne sais pas si j'y aurais été. Parce que en tant qu'étudiante, je n'ai pas les moyens.
c'est ça. Mais je voulais parler avec vous justement d'un phénomène qu'on voit de plus en plus en milieu festivalier au Québec. Mais chaque année, souvent, les gros festivals comme le FEC, par exemple, deviennent de plus en plus commerciales. Puis encore une fois, cette année, on a dépassé notre record avec 95 000 spectateurs lors de cette 56e édition du festival. Je sais pas pour vous, mais 95 000 à 100 000 personnes pour voir Post Malone, ça fait quand même vraiment beaucoup de personnes et de spectateurs en même temps. Comme, tu sais, dans le temps de mes parents, par exemple, qui allaient voir, je sais pas, genre Daniel Bélanger sur les plaines d'Abraham, puis il y avait de la place, tu sais, pour s'asseoir puis se faire un pique-nique. Mais maintenant, ce genre de festival au Québec, ça demande vraiment beaucoup plus d'organisation, de préparation, au niveau de la sécurité surtout. Puis il y a eu d'ailleurs plusieurs critiques au fait que cette année, spécialement justement pendant la soirée du spectacle, de Post Malone où il y a eu plusieurs personnes. Moi j'étais présente là, puis j'ai même vu des gens qui ont dû partir en civière parce qu'il y avait trop de monde. Donc c'est comme un phénomène qui se passe que ça coûte cher, mais les billets sont de plus en plus oversell. Donc je sais pas pour vous, mais est-ce que vous trouvez ça sécuritaire, vous, les festivals au Québec, ou vous avez déjà eu des expériences comme similaires, je sais pas.
Je suis d'accord que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à aller dans des festivals, on avait énormément d'espace, c'était relativement abordable. Maintenant, les prix ont doublé, mais c'est le même genre d'artiste quand même. Il n'y a pas de place, il fait chaud, ça reste agréable, tu as envie d'y aller. Mais je trouve que l'expérience a complètement changé quand même.
Totalement.
Mais niveau sécuritaire, je me rappelle, ça s'était passé avec, c'était pas Kendrick Lamar ou Travis Scott, je sais plus.
Travis Scott,
c'est ça, où il y avait eu plusieurs décès, tout ça dans ses concerts, et que clairement il y avait trop de monde, quoi. Donc ouais, c'est sûr que pas ce problème, sûrement, je pense.
Mais j'ai envie de vous dire, en tout cas personnellement, je trouve que oui et non. Oui, c'est sécuritaire parce que tu sais, il y a quand même de la sécurité, il faut quand même vachement attention avec les fouilles, avec toute la sécurité qu'il y a là-bas. Mais en même temps, non, parce que encore une fois, en tout cas, je trouve que c'est un effet de mode. Parce que, tu sais, avant, les festivals, il y avait beaucoup moins de monde parce que, justement, c'était pas à la mode. Maintenant, les gens se disent, OK, on va aller en festival parce que tant qu'à payer cher, autant payer le prix, en tout cas, d'un billet pour une journée, deux journées, etc., mais pour voir plusieurs artistes, plutôt que de payer ce même prix pour aller à un seul concert.
Ouais. Ouais, tout à fait.
C'est la vibe, comme on dit, là, en termes... familier, c'est la vibe qui est agréable aussi. Mais parlant des fouilles, par contre, je trouve que ils savent tellement qu'est-ce que le monde vont faire dans les festivals qu'il y a plus tant de réglementations. Ils sont plus là pour la sécurité, pour assurer que tu sois correct là-bas. Mais il y a plus tant de surveillance, puis tout ça.
C'est pour
moi. Moi, j'ai travaillé avec Gloufest, je faisais les fouilles avec Gloufest et je peux vous assurer que...
Ah, toi aussi. Moi aussi.
Ah, c'est ça, je pense niveau fouille, c'est moi qui faisais la fouille, j'ai jamais eu de... que ça soit de formation, sécurité ni rien et tout. Donc après, aucun... je pense que ça dépend dans quel festival tu vas, ça dépend
c'est pas
dans
quel pays
tu es. Non, c'est ça,
mais Igloo Fest, c'est sûr, c'est des gros noms, là, comme le FEC aussi, c'est des gros noms. Mais moi, j'ai une amie, j'ai découvert Sain et Sauve, je sais pas si vous connaissez cet organisme-là, mais c'est un organisme à but non lucratif que j'ai découvert cet été, puis c'est vraiment bien, comme de plus en plus, partout dans le monde, les festivals prennent des nouvelles mesures de sécurité, puis dans le fond, eux, c'est des bénévoles qui luttent contre les violences à caractère sexuel aussi en festival, donc ça, c'est super intéressant. Ça a été fondé en mars 2022 par une étudiante, justement, qui allait à l'Université de Montréal. Puis, tu sais, ils font beaucoup aussi de soirées pour les universitaires qui commencent bientôt leurs initiations. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une belle initiative de leur part. Puis c'est sûr que les festivals, c'est ça, dont le fait qu'il a généré 107 millions de dollars cet été. Donc c'est sûr qu'au niveau commercial, c'est intéressant pour eux, mais c'est le bien aussi, je trouve, de parler des petits festivals. Il y en a beaucoup, tu sais, surtout si on va plus vers Baie-Saint-Paul ou en Gaspé. Tu sais, il y a plein de petits festivals partout au Québec aussi qui valent la peine d'être connus, qui sont pas nécessairement gros, mais qui sont super intéressants. Puis,
Je suis d'accord parce que là, on dirait que le monde, ils vont dans des festivals pour le nom du festival.
Ouais.
Pour dire, hey, je suis allée à Chiaga. Mais tu peux avoir autant de fun, comme tu dis, à Baie-Saint-Paul ou qu'en Gaspésie.
Ouais, c'est vrai. Hein?
Chiaga, c'est un très grand... Ouais, après, il y a des scènes, même à Tadoussac aussi, il y a un grand festival qui sont assez connus quand même, et qui proposent des artistes francophones du Québec, généralement. On les connaît moins, mais il y a un petit... commence à faire son petit nom, je pense, le festival à Tadoussac aussi. Donc, mais je sais qu'en province, il y en a beaucoup qui vaut la peine d'être visités.
Ouais. Oui. Je pense que ça dépend de la vibe que tu recherches aussi. Tu sais, est-ce que tu veux absolument voir des gens qui sont connus ou est-ce que tu cherches plus à, tu sais, t'ambiancer avec tes amis, à danser? Puis de toute façon, je pense qu'ils sont au courant. Tu sais, comme maintenant, c'est comme tu disais, tu sais, par rapport aux fouilles, etc. Ils savent que peu importe ce que tu vas faire, que t'aies des portiques ou peu importe les mesures qui sont mises en place, ils savent que l'inévitable, tu sais, les gens vont quand même réussir à rentrer dans le festival avec de quoi. Enfin, tu sais. C'est pas possible, bon, en tout cas, de tout interdire et d'être sûr que personne n'ait rien apporté. Fait que je pense que c'est comme tu disais, tu sais, vaut mieux prévenir que guérir. Ils savent qu'ils peuvent se passer des choses. Ils savent que les gens peuvent faire rentrer de quoi sur le site du festival. Fait qu'ils mettent en place des nouvelles, des associations avec des bénévoles.
Il y a de plus en plus. Oh, vas-y.
Mais au niveau de la sécurité, c'est ça. J'ai même vu en France, il y a des festivals qui ont créé une application qui s'appelle Safer. Puis ça permet aux festivaliers, si jamais il se passe quelque chose, il y a un malaise ou ils se sentent pas bien avec quelqu'un, ils peuvent aller sur cette application-là, puis directement quelqu'un qui est proche va venir les aider. Donc ça, c'est vraiment des belles mesures qu'on voit un petit peu de plus en plus partout, là. Donc ça, c'est intéressant, vraiment.
Bon, ça me fait vraiment plaisir, puis ça me rassure, parce que même sur le campus de l'université, justement, maintenant, ça fait quelques années, mais il me semble que c'est quand même assez nouveau. On a l'équipe de phare qui est là, puis que les associations peuvent demander à ce que l'équipe soit présente quand ils font, par exemple, des événements, des soirées, etc. Mais c'est une équipe... Ben, eux, ils sont pas bénévoles. Eux, ils travaillent, mais ils sont là, tu sais, que ce soit pour les violences à caractère sexuel, s'ils voient quelqu'un qui a trop bu, s'ils voient qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des regards bizarres, ils sont là. Et rien que de voir que ça se passe sur les campus des universités, ça veut dire à quel point l'échelle, c'est que c'est pas anodin aussi, c'est qu'il s'est passé des choses, puis qu'ils mettent des choses en place. Moi, ça me fait plaisir. C'est mes petites bonnes nouvelles.
Ouais, c'est des bonnes nouvelles, c'est sûr. Puis c'est le fun aussi d'encourager même les plus petits festivals, puis les gens plus locaux. Moi je trouve ça super.
Puis au Québec. Pour les gens qui ont des petits budgets, t'as-tu des festivals à recommander?
Ben oui, ben c'est ça. Il y en a un petit peu partout, mais justement Saint-Tite qui s'en vient en fin de semaine, ça peut être super intéressant. Sinon, il y a souvent des festivières aussi à ce temps-ci de l'année ou des petits festivals comme ça locaux. Je sais pas si vous en connaissez.
Même le festivière, je vais être en mode un peu
Je ne connais pas celui-là, c'est quoi?
Mais le festivière, c'est qu'il encourage les microbrasseries québécoises.
C'est ça.
Puis, mais maintenant, par contre, avant l'entrée était gratuite. Maintenant, c'est 27 $ en plus du stationnement de 20 $. Hey, juste, c'est plate, mais juste pour ça, on a fait... Hey, en plus des consommations qu'il faut que tu achètes à l'intérieur. C'est fou, là. Mais le franco, les franco, c'est gratuit. Puis il y a tellement d'artistes que j'aurais pas connu si j'étais pas allée. Mm-hmm. Festival de jazz aussi.
On espère que ça reste gratuit, là, parce que c'est super, ces festivals-là. Puis...
Mais je suis mitigée. Parce que d'un côté, oui, les festivals gratuits, c'est le fun. De toute façon, ben, comme tu dis, les franco, on sait, mais en tout cas, les organisateurs, ils savent que ça marche, ils savent qu'il va y avoir du monde. Puis en même temps, c'est sur Place des Arts, si je me trompe pas. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de la foule, etc. Mais en même temps, moi, je prends mon expérience de quand j'avais fait partie de mon association étudiante, quand on faisait des événements gratuits, les gens prenaient leur place, au final, ne venaient pas. Fait que j'ai envie de te dire, d'un côté, tu sais, comme mettre un petit prix... Bon, après, je parle pas des 27 pièces d'entrée, mais tu sais, ben, je prends... Est-ce que vous avez déjà été à Air Commune?
Ouais, oui. Maintenant, ils chargent 10$.
Mais avant, justement, c'était gratuit. J'ai l'impression que l'inflation est partout, puis tous les prix montent un peu partout.
Juillet. Mais ils l'ont fait en raison de sécurité aussi, parce qu'ils avaient fait une dernière soirée, puis il y avait beaucoup trop de monde, puis il s'était passé trop de choses. Puis...
Mais c'est parce que le monde, il se rendait sur place, il attendait 2 heures, parce que dans le fond, c'est une entrée, une sortie. Mm. Fait que là, il fallait qu'attendre que quelqu'un sorte, mais t'attendais 2 heures dans le fond de Montréal pour finalement te faire refuser à la porte parce que c'était plein.
Ouais, mais ça, c'est justement les réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de médiation qui est faite par rapport à Air Commune, donc c'est de plus en plus connu. Mais ça aussi, Saint et Sauve, ils vont souvent à Air Commune pour les aider, justement, avec ce genre de trucs.
Mm. Ouais, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que... Mais je crois que c'est juste rendu 10 pièces, l'entrée, il me semble. Ouais. Fait qu'en soi, ça va. Mais c'est juste pour montrer à quel point que, oui, d'un côté... Je pense que c'est quand même rajouter une certaine mesure de sécurité, le fait de faire payer un festival. Mais ça reste quand même un budget. Fait que... Mais... Ouais. Est-ce que, Lauriane, tu voulais dire de quoi par rapport au festival, toi?
Non, c'est bon. Moi, je note. Je vais être au rendez-vous pour quelques-uns d'entre eux, si je peux me le permettre.
On ira. Oh, si. Attendez, j'avais un truc à ajouter. J'ai trouvé la solution pour ne pas avoir à payer vos festivals. Travaillez dans les festivals. Soyez bénévoles. Moi, j'ai fait Oshaga, j'ai fait Igloo Fest, j'ai fait Fuego Fuego. Et c'était vraiment le fun parce qu'au final... Soit t'es payé, soit t'es bénévole, mais au final, tu peux quand même rester pour le concert, enfin pour tous les shows, puis tu rencontres plein de gens. Puis, tu sais, festival, ça veut pas forcément dire que tu vas boire ou autre chose, juste la vibe est incroyable parce que tu pars du principe que tous les gens ils sont venus dans un même endroit pour se rassembler, pour chanter ensemble, pour danser ensemble. Je trouve que moi,
t'es fait... toujours heureux là-bas.
Ouais.
Mais de toute façon, tout est rendu cher un peu. Lauriane, je pense que tu allais nous en parler un peu aussi.
Ben oui, tu nous partageais les festivals à venir cet été dans ton segment culture. Ben, c'est excitant, puis heureusement...
On va justement s'en reparler. On va s'en reparler juste après.
Je t'ai trop d'avance.
Ouais, mais c'est ça. On va faire une petite pause musicale, puis après, Lauriane, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir continuer à tout de suite.
Parfait.
Vivons cachés restera sa théorie. Et madame veut beaucoup plus qu'un acolyte. Même si elle t'aimera toujours à la folie, tu resteras caché sur ma eyes only.
La coste est N, elle a le drip Belda. Elle gère le business tout comme Griselda. Quand elle a fait le link, elle cherchait toujours Zelda. Elle a vite pris son bord même s'il fallait être là. Elle a eu beaucoup de tristesse dans sa life. Elle compense avec la vitesse, c'est le high. Passager en mode S, c'est le vibe. Plus rien à perdre, God bless, c'est live. Elle voulait suivre le mood, mais il a fait les moves. Il fallait qu'il comprenne que des comme elle, y en a pas 12. Mentalité du hood, elle te fera pas de bisous. Mais dans tes pires galères, elle sera toujours au rendez-vous. Même si tu l'aimes à la folie, elle t'assumera jamais en story. Elle s'enflamme vite comme météorite. Elle te dira jamais sorry.
Vivons cachés restera sa théorie. Et madame veut beaucoup plus qu'un acolyte. Même si elle t'aimera toujours à la folie, tu resteras caché sur ma eyes only. Vivons cachés restera sa théorie. Et madame veut beaucoup plus qu'un acolyte. Même si elle t'aimera toujours à la folie, tu resteras caché sur ma eyes only.
Indépendante, elle a besoin de personne. T'aimerais qu'elle te réponde encore une fois sans telle sonne. Et comme t'es sur la route, ça t'énerve, tu klaxonnes. Elle t'a vite mis KO à la Mike Tyson. Pour lui mettre à l'envers, non, elle connaît tous les vices. S'il faut le faire, elle débarque à l'improviste. C'est pas volontaire, elle aime prendre des risques. Elle a tout pour te plaire, de l'attitude au charisme. Une prise de tête pour un sale quart d'heure. Des heures au téléphone à parler jusqu'à pas d'heure. Tu perds pas ton temps, mais de quoi t'as peur? Tu la connais mieux que personne, tu la connais par cœur. Elle fait tourner les têtes, elle est même pas refaite. Elle aime faire la fête, elle fait tout en cachette. Tu passes pas le test, et si t'es pas net, elle va même pas te texte, non, elle va juste te next.
Caché restera sa théorie. Et madame veut beaucoup plus qu'un acolyte.
même si elle t'aimera toujours à la folie. Tu resteras caché sur ma eyes only. Vivons cachés restera sa théorie. Et madame veut beaucoup plus qu'un acolyte. Même si elle t'aimera toujours à la folie. Tu resteras caché sur ma eyes only.
Merci d'être avec nous ce midi. Je vous rappelle que vous écoutez Bulle d'écoute, l'actualité en toute intimité, votre nouvelle émission qui vous accompagne chaque mardi de midi à 13h pour votre pause café conversationnelle. Écoutez, on a parlé politique, on a parlé culture. Si on s'en allait du côté de l'environnement, Lauriane.
Mais oui, Mélissa.
Quoi tu nous parles?
Ben oui, Mélissa, plutôt, elle nous parlait des festivals à venir cet été dans son segment culture, c'est excitant. Puis heureusement, pour beaucoup d'entre nous, ben, certains de ces festivals sont assez abordables, il y en a même des gratuits, parce que quand on est étudiant ou que nos sous sont comptés, ben, faut faire des choix. Puis aujourd'hui, juste faire son épicerie, ça coûte une fortune, puis c'est dommage de devoir faire des compromis dans son alimentation. Surtout quand on essaie aussi de prendre en compte la portée environnementale de nos choix de consommation, d'ailleurs. Godin, un caricaturiste pour Le Devoir, l'a bien imagé pendant les JO. Faire son épicerie et courir après les rabais, c'est presque rendu un sport olympique. Okay? D'un côté, on a Statistique Canada qui soutenait en avril que les prix des produits d'épicerie ont augmenté de 21% depuis 3 ans. C'est considérable. Et de l'autre, on a l'ONU et la Banque nationale qui estiment que d'ici à 2050, il y aurait une augmentation de production de déchets ménagers de 70%. C'est le deux tiers de ce qu'on produit déjà qui va être ajouté au tout. Donc, c'est dur à ignorer. Puis c'est là que les alternatives comme les épiceries zéro déchet, ben, ça pose un peu à nous comme une solution intéressante. Vous en avez sûrement croisé. Peut-être que vous faites votre épicerie déjà là-bas. C'est de plus en plus populaire, surtout dans la région de Montréal. On en voit un peu, entre autres, sur le plateau, puis le Mile End, et la Petite Italie. C'est des magasins qui proposent toutes sortes de produits en vrac ou sans emballage. C'est de la nourriture comme des produits ménagers. C'est intéressant dans le sens où, en plus d'apporter ses propres contenants réutilisables puis de réduire sa consommation de plastique, ben, tu peux aussi doser la quantité dont tu as réellement besoin. Comme ça, ça évite du gaspillage alimentaire en plus, puis de dépenser aussi pour jeter après, c'est tout le temps plate. Fait que dans ce sens-là, c'est assez économe. Cependant, faire ses courses en vrac, en vrai, est-ce que c'est réaliste et accessible pour tout le monde? On se pose la question parce que parfois, avoir une conscience écologique puis être en mesure d'accorder ses actions à ses valeurs, ben, ça peut être un luxe pour certains, surtout dans le contexte actuel d'inflation alimentaire. On peut pas toujours se le permettre. Donc, les épiceries de zéro déchet sont des alternatives envisageables. Aujourd'hui, au niveau des prix, quand on les compare entre les épiceries grande surface puis les boutiques en vrac, ben, c'est difficile de déterminer lequel des deux est le plus avantageux parce qu'il faut prendre en compte que même entre eux, ils offrent des gammes de produits puis de prix différents. Donc, c'est difficile de faire des moyennes. Puis aussi, comme les épiceries de zéro déchet, généralement, ils offrent pas tous les produits. On pense au pain, la viande, les fruits frais. Ben, ça fait que pour se procurer ces produits-là puis rester dans l'optique d'émettre zéro déchet, ben, il faut aller directement dans les boulangeries, les boucheries, les fruiteries, qui ont eux aussi des gammes de prix différents, dépendamment de où vous êtes situé. Donc, vraiment difficile au niveau des prix de comparer. Cela dit, moyennant du temps, c'est sûr que c'est probablement possible de cibler les commerces locaux qui offrent les meilleurs prix, les plus compétitifs, puis d'obtenir au bout de la ligne une facture équivalente, sinon moins coûteuse que dans les épiceries grande surface. Mais encore une fois, est-ce que c'est réaliste pour tout le monde? On va pas se le cacher, le but d'aller dans ces épiceries en vrac, c'est de consommer des produits respectueux de l'environnement que nous, on n'a pas le temps de produire nous-mêmes à la maison. Faute de compétences, de temps ou d'argent pour expérimenter puis concevoir ces grandes quantités de produits. Parce que quand on arrête pour y penser, la quantité de produits qu'on utilise au quotidien, c'est impressionnant. On le sait tous, mais je vous invite sincèrement à une journée de prendre une note mentale de tous les produits consommés. C'est aberrant, même lorsqu'on s'en tient au minimum. Donc, même si c'est possible que ça soit avantageux au niveau budgétaire pour les ménages puis responsable écologiquement, c'est pas toujours possible en termes d'énergie puis de temps pour les familles de prendre la peine de rester conscient de l'écologie. Ça n'enlève évidemment rien à ces commerces qui ont pris l'initiative d'offrir plus d'alternatives puis de normaliser un mode de vie zéro déchet. Au contraire, seulement, c'est bon de se mettre en perspective que parfois, même au niveau individuel, ben, il faut pas trop se taper sur la tête puis culpabiliser. C'est de réussir à trouver des compromis puis qui s'accordent avec la réalité de chacun puis de faire face à des enjeux super complexes puis souvent plus grands que nous. Donc, juste de trouver ce qui s'accommode à tout le monde.
Ça, c'est important de le dire parce que moi, je culpabilisais beaucoup pendant longtemps à cause de ça. Donc, c'est important de le dire qu'il faut faire avec ce qu'on a et avec ses moyens.
C'est surtout que c'est pas donné. Hein. Moi, si je me regarde, à chaque fois, j'ai la flemme d'aller faire les courses parce que j'ai pas d'auto. Puis après, il faut porter les sacs. Puis si tu fais tes épiceries en vrac, ça veut dire qu'il faut que tu amènes tes pots. Puis que tu vas devoir retourner chez toi. Non, non, non.
Non, c'est très compliqué ouais. comme processus.
Mais c'est quand même intéressant, je trouve. Ouais. Moi, j'ai déjà essayé. Puis honnêtement, j'aimais vraiment ça. C'est juste, ça prend de l'organisation un peu.
Puis ça prend du temps à implémenter aussi. Des fois, on se décourage parce qu'on n'y arrive pas tout de suite. Mais si ça prend un an, commencer avec la boulangerie, commencer à bosser avec la fruiterie, puis tranquillement, c'est des habitudes qui prennent dans son ouais. habitude. Donc,
ouais, c'est une question d'habitude, je pense, là, ouais. surtout. Là. Ouais. Mais c'est faisable.
Faut juste pas se taper sur la tête.
C'est quoi que t'as acheté, toi, principalement, par exemple, à l'épicerie en vrac? Genre, est-ce que c'était tout ou c'était juste quelques...
Moi, c'était des aliments, mais aussi des détergents ou des trucs ménagers. Là. Je trouvais ça vraiment super. Mais surtout quand j'habitais à Montréal, parce que là, j'ai déménagé. Mais à Montréal, je trouve que c'était accessible pas mal plus là, près du Mont-Royal.
Mais on va se le dire, c'est tellement long, par ouais. contre, à faire. Genre, juste ouais. remplir ta petite bouteille de savon à main. T'en as pour 15 minutes, t'écoutes un petit balado.
Mais moi, il me reste encore ces produits-là chez moi. Genre, j'avais rempli un truc de shampoing, je pense qu'il m'en reste encore un tiers, il y a comme un an et demi.
Non, ouais. c'est bon.
Mais c'est vraiment une tendance de mode parce qu'on commence à le voir aussi avec les cosmétiques, etc. Mais on pourra s'en reparler parce que c'est vraiment un gros sujet. Fait que si jamais tu veux nous en reparler, Lauriane, ce serait avec grand plaisir. Écoutez, c'est tout pour nous. Un grand merci d'avoir écouté Bulle d'écoute sur les ondes du CISM au 89.3. Petit point météo, il va faire très chaud cette semaine. On a eu une baisse des températures les derniers jours, mais il va faire entre 25 et 27 degrés dans les prochains jours. Restez quand même couverts hein, parce qu'aujourd'hui, la température atteindra seulement les 20 degrés vers 15h cet après-midi. Sur ce, vous pouvez nous réécouter sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur le site internet du CISM. Sur ce, on se dit à mardi prochain, même heure. Bye!
Hey yo, c'est Dope Gang!
Dope Gang!
Vous êtes à l'écoute de CISM.
Let's go!
Y'a du lourd dans la caisse, tu veux fuck avec la gang, baby. So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il call et il shot, parce que toi, tu brettes. Tu bouges pas, man. T'es sur la quête, on fout la chienne. T'es sur la fraîche.
Oh non, le prof de maths m'a filé une sale note dans le contrôle surprise d'hier. Je vais me faire zigouiller par mes vieux. Oh, et je peux dire adieu à la bagnole qu'il m'avait promis pour mes 16 ans.
Tu veux dire que tu vas devoir aller au concert de la pause musicale avec ce vieux vélo?
Oh,
c'est trop la honte.
Je sais, je suis humiliée pour le restant de l'année scolaire.
Oh mon Dieu, Becky. Cindy, viens par ici.
Oh, ok, ok, sois cool. Ah, hey!
Hey, salut Becky, beau vélo. Tu viens à la pause musicale? La pause musicale, la nouvelle série de concerts de CISM sur le campus de l'Université de Montréal. Les 5, 10 et 25 septembre avec Étienne Dufresne, Naïma Frank et Miro Chino. Toutes les informations au cism893.ca.
Ici Alex Ferns, vous écoutez CISM.
Es-tu plus country, afro-pop, boogie-funk, Bollywood ou salsa? Pourquoi choisir? Au Festival Tempeo, tu peux tout avoir. Danse et musique sur l'esplanade de la Place des Arts du 10 au 15 septembre. C'est ta dernière chance de l'été de te déhancher sous les étoiles avec des DJ, des danseurs professionnels, des groupes live et c'est gratuit. Viens danser! Plus d'infos sur placedesarts.com.
Mardi, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Au chant des sirènes. Au chant des sirènes. Sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes.
Le chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
Sup? Haha! Vous croyez que c'est un bon vieux band de rap? Mais non, c'est Victime qui
viennent de faire un live à CISM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la bouffe.
Écoutez CISM 89.3 FM.
Cette émission est une rediffusion.